Radio Libertaire 89.4, vous écoutez les Amis d'Orwell et aujourd'hui donc on reçoit donc quatre personnes, quatre militants qui ont été arrêtés le 8 mars 2012 suite à un collage d'affiches puis mis en garde à vue.
Ya puedes despertar el sol divino, el lucero matutino nos viene anunciando el alba. Puedes despertar, Rosalba, ya puedes despertar, sol divino, que el lucero matutino nos viene anunciando el alba. Despierta, ella ha despertado las aves, despierta y ponme atención. Entrégame, mujer, la llave de tu corazón. Ya despertaron las aves, despierta y ponme atención. Entrégame, mujer, la llave de tu corazón.
Radio Libertaire 89.4, donc vous écoutez l'émission Les Amis d'Orwell. On est avec Bruno à la technique et on a donc quatre invités. On a Marine de la Fédération anarchiste, Paul aussi de la Fédération anarchiste et du groupe Regard Noir, Christophe du NPA et Eric également du NPA. Donc vous êtes là ce soir parce que donc le 8 mars vous alliez coller des affiches donc pour donc contre une réunion d'extrême droite, les Assises nationales de la nationalité, de la citoyenneté et de l'identité, qui avait lieu donc le samedi 10 mars dans le 12e arrondissement. Et pendant ce collage d'affiches, vous avez été arrêté, mis en garde à vue pendant 42 heures, c'est ça ?
48 heures.
48 heures, et ensuite déféré au parquet, ça a duré encore un certain temps.
14 heures de plus, ce qui fait 72 heures, 62 au total.
D'accord. Donc, je ne sais pas qui veut nous raconter un petit peu les faits, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous faisiez précisément ?
Alors, pour le faire dans un ordre chronologique qui est le plus simple, donc on a été interpellés jeudi à 22h, donc à proximité de l'espace Charenton, mais pas devant l'espace Charenton. Donc, nous étions 10 à être interpellés par une brigade du 12e arrondissement. Donc, ça a commencé par un contrôle d'identité. À partir de ce moment-là, donc, on n'a plus été libre de nos mouvements. Et très vite, ils ont confirmé qu'on allait être placé en garde à vue. Donc, on a été transporté jusqu'au commissariat du 12e arrondissement. De là, s'en est suivi toute l'affaire administrative qui ouvre la garde à vue avec état civil et compagnie. Donc ensuite, ils nous ont, après une fouille réglementaire, ils nous ont placés en cellule. Donc nous étions deux femmes pour 8 garçons. Donc les deux femmes, comme c'est la loi, ont été on a été placées toutes les deux dans une cellule à part. Et les 8 autres étaient ensemble. Donc dans le commissariat du 12e, on a déjà eu une prise d'empreinte. Avec prise de photos avec réglementé avec les portraits. Non.
Uniquement les femmes, parce que
uniquement les femmes,
pas du tout quoi.
D'accord. Bon bah alors je viens d'apprendre que
prise d'ADN aussi ou
non, mais empreinte complète. Disons que enfin s'agissant de des deux femmes, donc en l'occurrence Vanina et moi, Vanina du NPA. Donc nous avons eu le droit à donc prise d'empreinte et portrait. Donc longue attente, on est passé en audition. Moi, personnellement, je suis passée en audition vers 3-4 heures du matin, sans la présence de mon avocate, mais ça, c'était apparemment plus ou moins légal. Donc, on est tous passés en audition à des heures différentes, logique. Donc, on a été auditionnés par des officiers de police judiciaire, les seuls qui sont aptes à faire cela. Et le lendemain matin, plutôt vers midi, on a été transférés dans le commissariat du 19e arrondissement, tous. Et donc là, encore une fois, les deux filles d'un côté, les 8 mecs de l'autre. Donc on a été... certains ont pu être réentendus, d'autres pas. Ils ont repris par contre là, pour tout le monde, il me semble, les empreintes. On refait des portraits avec photos. Et puis ensuite, ça a été, on a pu avoir un entretien de 30 minutes chacun avec l'avocate. En l'occurrence, c'était son assistante. Donc l'avocate en question, c'est évidemment Maître Irène Terrel, qui est spécialisée dans ce genre d'affaires. Donc ensuite, nous avons été replacés en cellule. Les repas dégueulasses, on vous fait pas le topo. Et donc, quelques-uns donc, ont été interrogés, d'autres pas. Et il y a eu, ils ont voulu donc, avoir les codes PIN de nos portables afin de les fouiller. Mais on n'a jamais eu de retour sur s'ils avaient trouvé, fouillé ou pas. Bref. Bon, déjà, ils n'ont pas changé nos codes PIN, c'est déjà ça. On peut s'en réjouir. Donc voilà. Sachant que ces portables étaient éteints, donc normalement, ils avaient besoin d'une commission rogatoire pour avoir accès aux portables. Et apparemment, bon. Ça n'a pas été fait. Et donc, vers la fin d'après-midi, ils nous ont fait signer...
Donc là, c'est le vendredi, c'est ça ?
Oui, nous sommes le vendredi, fin d'après-midi. Ils nous ont fait signer... après, chacun signe ou signe pas. Hein. Donc, ils ont voulu nous faire signer la prolongation de garde à vue suite à la décision donc, de la procureure. Décision qui est normalement en annexe du papier qu'on doit signer et annexe à laquelle on n'a pas pu avoir accès par ailleurs. Mais bref. Donc ensuite, nous avons été transférés le soir au 36 quai des Orfèvres et on a fait un tour du côté de la SDAT, ça, de la section antiterroriste de la brigade criminelle. Et donc à partir de là, nous étions répartis sur 3 étages. Nous étions 5 à l'étage du milieu, qui était peut-être le plus accueillant. J'étais à cet étage pour ma part. On avait 3 camarades qui étaient isolés en haut. Puis l'un des 3 est redescendu avec 2 autres qui étaient en bas. Donc on était dispatchés. Voilà, on était tous dans une cellule individuelle. Et à partir de là, on a encore été réauditionnés avec des éléments qui ont été présentés de manière plus ou moins fournie selon les cas. Alors des preuves qu'ils auraient pu récolter lors de la constatation qui a été effectuée le jeudi soir. Voilà. Et donc à partir de là, on pouvait exercer aussi un droit au silence. Donc c'était une période où voilà, on s'ennuyait beaucoup, mais après, effectivement, on a eu la bonne surprise. Donc on a encore eu des photos, plein de photos, reprises empreintes, et cette fois-ci, ils nous ont mis dans un fichier qui s'appelle, d'un nom délicieux, qui s'appelle le fichier Gaspard. Alors, pour ma part, j'ajouterais que Gaspard, en argot parisien, ça veut dire rat. Voilà, donc on est dans le fichier rat, et c'est un fichier assez récent, je crois qu'il date de 2008. Et donc c'est un fichier de signalement, donc pareil les photos, après ils font tout un dossier généralement sur couleur des yeux, couleur des cheveux, etc., signes particuliers, tatouages et compagnie, cicatrices aussi. C'était le samedi, c'est là qu'ils ont effectué la prise d'ADN. Alors ils nous ont spécifié que ce serait sous scellé jusqu'au procès. et que si on refusait cette prise ADN, ça allait entraîner une autre procédure. Donc on peut refuser, mais disons que si on refuse, ça peut entraîner des suites. Enfin, après, c'est un choix plus ou moins cornélien. Donc voilà, on a eu quand même cette surprise pour des faits qui sont pour le moins maigres, avec des preuves pour le moins maigres, mais pour le coup des raisons clairement politiques. On s'est tapé effectivement 62 heures de privation de liberté, même si 48 heures de garde à vue et puis 14 heures au dépôt. Le dépôt étant l'endroit où nous sommes à disposition de la procureure. Donc on attend d'être déféré au parquet, qui est toujours au 36, pas être justice. On attend d'avoir notre convocation pour le procès, qui se tiendra donc le 7 mai. Je pense qu'on y est tous convoqués à 9h.
C'est ça.
Et je crois que c'est la 29e chambre, je ne sais plus. Voilà, mais donc d'autres infos suivront. Donc voilà, ça c'est vraiment pour exposer.
D'accord. Et alors, pour quelle inculpation vous êtes convoqué ?
Il y a deux types d'inculpations. On n'a pas tous reçu la même convocation. Je ne me rappelle plus les termes précisément, mais il y en a qui sont reconnus, en tout cas, de dégradation volontaire en réunion, et d'autres qui sont accusés d'avoir participé à un groupement formé en vue de dégradation. Et concrètement, ça différencie les personnes qu'ils auraient vues sur des caméras de vidéosurveillance et ceux qu'ils n'auraient pas vues, apparemment.
D'accord. Alors, vous étiez donc un groupe d'une vingtaine de personnes en train de coller des affiches, donc du NPA, de la Fédération anarchiste. Il y avait quoi d'autre comme organisation ?
Dans les interpellés, il y avait la Fédération anarchiste, le NPA, Alternative Libertaire et Antifasciste Action.
Et alors, pourquoi vous collez des affiches ? Pourquoi précisément ? Alors, c'est quoi cette réunion là qui a eu lieu le samedi 10 mars, les Assises nationales de la nationalité, de la citoyenneté, de l'identité ?
Alors, donc, c'était contre un meeting qu'effectuait le bloc identitaire, avec cet intitulé, et précisément La France en danger. Donc, c'était manifestement, et c'était. Étant donné que nous sommes quand même des militants antifascistes, nous étions au courant de ce genre de propos nauséabonds et haineux qui se portaient dans une salle qui est quand même pour le moins agréable. L'espace Charenton, c'est pas mal comme salle, hein, on va pas se plaindre. Avec un propriétaire donc, qui accueille dans ses locaux une tenue, des rencontres avec... ils avaient été aussi connus pour un coup médiatique, c'était Pinard et Saucisson.
Les apéros Saucisson Pinard.
Voilà. Ils aiment beaucoup jouer sur le côté médiatique. Enfin voilà. Et donc... Par ailleurs, se tenait en parallèle dans le 12e arrondissement. C'était un truc de quartier avec une manifestation, un rassemblement qui s'est fait donc du coup samedi 10, qui était beaucoup plus large cette fois-ci, parce que c'était une initiative du quartier, enfin du 12e arrondissement. Et donc nous, à la base, nous voulions aussi informer le quartier que se tenait quand même dans le 12e arrondissement, qui n'est quand même pas reconnu pour être un quartier... c'est un quartier quand même plutôt populaire, pas non plus, voilà. Informer quand même les habitants de ce qui se déroulait dans cet espace Charenton.
Et alors, vous pouvez repréciser ce que c'est là, le bloc identitaire ?
Le bloc identitaire, comment dire, c'est un groupement de monde de l'extrême droite qui vient de rejoindre en partie le Front National. Qui a basé toute son identité, l'identité germanienne, toute la lutte contre l'islam.
Ouais, contre l'islam.
Contre l'islam. Et dont la réunion qu'ils faisaient, c'était la deuxième qu'ils faisaient, parce que l'année dernière, ils en avaient déjà fait une autre contre l'islam.
Au même endroit.
Au même endroit, au même système. C'est ceux qui étaient arrivés avec des masques de cochon dans les couilles d'Yalal en disant qu'on voulait du boycott. C'est les mêmes personnes qui vont défiler qui vont arriver dans les quartiers où va être installée une mosquée avec des mégaphones en disant voilà, on va à 6h du matin, on vous a fait l'appel à la prière, en sachant très bien que dans aucune mosquée en France, il y a l'appel à la prière. Donc oui, c'est...
Et c'est un mouvement fasciste ou pas, alors ?
Évidemment. Oui, ouais, je pourrais dire, c'est ouais, nationaliste radical.
Identitaire.
Identitaire, oui. Bah après, c'est vrai que... D'ailleurs, on peut conseiller, pour les gens qui seraient intéressés, qui ont du mal à s'y retrouver dans ce magma puant. Alors, il y a le Scalp Reflex qui a fait un excellent schéma sur l'extrême droite en France et tous ses mouvements, qui est disponible sur le Scalp Reflex, sur le site. Donc, je conseille fortement aux auditeurs qui seraient... qui aimerait s'informer, d'aller voir ce schéma qui est très bien fait, très pédagogique et qui résume bien les choses.
Et on s'aperçoit même directement sur schéma que nos camarades dits du bloc identitaire sont aussi alliés avec les autres camarades de la LDJ.
Qui est
la Ligue de défense juive.
D'accord.
Qui est. C'est une organisation qui agit sur tout ce qui est pro-promotionniste. Quand il y avait eu le récolte du sang pour les Palestiniens, c'est eux qui étaient intervenus, qui avaient déchiré les poches de sang et qui les avaient jetées sur le mur. C'est eux qui avaient accueilli Beauvais et Besancenot à l'aéroport. C'est là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un meeting de la campagne BDS, la Bourse du Travail, c'est eux qui ont essayé d'attaquer le meeting. Faut savoir que c'est un groupe qui s'appelle la LDJ, donc la Ligue de Défense Juive, qui est interdite en Israël et aux États-Unis, et qui est autorisé seulement en France, sous protection de la police française.
Et alors, qu'est-ce qu'il y avait sur vos affiches qui puissent, en dehors de... Enfin, c'est quand même légal de coller des affiches, enfin, légal dans certains cadres, mais...
Sur les... Dans nos tribunes, on l'a spécifié. Sur les affiches, il y avait un rat à l'effigie de Marine Le Pen, en gros.
D'accord. Et alors... Peut-être, Marine nous a raconté un peu comment elle avait vécu sa garde à vue en tant que femme. Peut-être que l'un de vous peut nous raconter ce que lui a vécu en tant qu'homme, puisqu'il y en a trois là, ici.
Ok, je veux bien. Bah, c'était un petit peu plus cool quand même, si on était tous les huit. Donc, on peut se parler.
Vous n'avez pas eu les bonnes sœurs.
Ouais, on n'a pas eu les bonnes
on
sœurs.
On n'a pas les mêmes privilèges.
Franchement, je regrette les bons, bref.
Mais alors, on va juste terminer avec les femmes. C'est quoi cette histoire de bonnes sœurs hein?
Bon, alors du coup, au dépôt, donc il y a un statut intermédiaire, on n'est plus gardé à vue, c'est un nouveau statut, on est à disposition de la procureure, enfin en l'occurrence c'était une femme, et donc journée de la femme, tout ça, 8 mars. et donc le dépôt, on récupère à ce moment-là 3 droits. Enfin, ce qu'ils estiment être nos droits, donc la vie à la famille, pouvoir voir un médecin et pouvoir voir un avocat. Et donc, il se trouve que la partie féminine du dépôt, puisque c'est non mixte, encore une fois des questions légales, sont prises en charge, c'est-à-dire ce sont les bonnes sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde qui ont la bonté de s'occuper de nos pauvres âmes en perdition, donc c'est vrai qu'on n'est même pas encore prouvé coupable, puisque effectivement la présomption d'innocence clairement n'a pas été respectée ici. On n'est même pas encore démontré coupable qu'on est déjà, enfin on nous propose déjà l'absolution, ce qui est vraiment un cadeau fort appréciable. Donc ces vieilles dames, parce qu'elles étaient quand même assez vieilles, il faut quand même le dire, s'occupaient de nous. Alors c'est vrai que c'était très propre et nous on a eu la chance d'avoir une douche au bout de 48 heures. C'est pour ça que je parlais de privilèges, juste au niveau de la douche et du thé et du café très sucré. Mais sinon, voilà.
Et après, privilège tout relatif, vu que qu'en arrivant dans le 12e, les femmes n'avaient pas le droit de prendre leur pilule, par exemple.
Voilà. Les remarques misogynes, la journée de la femme, c'était très appréciable. Moi, j'ai voulu prendre ma pilule au moment où on n'était pas encore dans les démarches administratives. On était dans une sorte de salle d'attente, si l'on veut. Et donc purgatoire, je sais pas comment on peut appeler ça, ils aiment bien apparemment la religion. Je voulais prendre ma pilule, donc pour caricaturer l'agent de police, alors qu'est-ce qu'elle veut, elle veut prendre sa pilule, tu la prendras demain matin, ça va pas changer hein. De toute façon je peux t'assurer que t'auras pas de relations sexuelles dans les heures à venir hein, ça. Et j'en ai eu d'autres, hein, des réflexions misogynes. Enfin bon, voilà, Enfin, ils répondent aux clichés. Ça, c'est vrai que c'est très appréciable.
Et encore, enfin, moi, je trouvais un truc assez intéressant. Bon, à part, c'était ma première garde à vue. Hein, donc, je trouvais assez intéressant que plus on monte dans, disons, la chaîne alimentaire de la police, plus ils sont respectables. Et bon, après, ils y provoquent quand même, mais plus ils sont respectables, parce que dans le 12e, c'est là qu'on a eu quand même le plus de remarques. On en a eu une marrante quand même dans le 19e. Je pense qu'on peut, la citer. Quand on est arrivé dans le 19e, dans la cellule, on n'était pas encore tous là. Je crois qu'on était que trois.
On fait peut-être un retour sur comment ça s'est passé, votre garde à vue à
dès
vous.
Dès le début, oui,
ouais,
bon, bah,
pour
d'accord.
Reprendre.
Bah, donc, bon, bah, on va dire, dès qu'on arrive dans le 12e, c'est pareil, on est mis tous en cellule. Et on va être auditionné chacun notre tour, ça durera assez longtemps. Donc on est dans une cellule à 8. Il y avait plus ou moins la place de s'installer, pas trop, mais on savait pas qu'on en aurait encore moins après. Enfin bon, voilà, mais ça allait encore, c'était propre, au moins dans le 12e. Très propre, enfin, c'était immaculé. Mais donc on a été auditionné en effet à des heures très tardives. Je me rappelle plus quelle heure il était pour ma part, mais bon, voilà, c'était dans la nuit. Donc comme je disais tout à l'heure, c'était un petit peu plus facile peut-être parce qu'on était à 8, qu'on pouvait parler, sachant que dans le 12e, on n'avait aucun contact avec les filles par exemple. On ne savait pas ce qui se passait, on ne savait pas ce qu'on avait fait, enfin voilà. Alors que dans le 19e, on était dans des cellules mitoyennes. Donc voilà, à 8, on pouvait parler, on avait le temps de se faire plein de films, de se dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui ne va pas se passer. Les flics étaient en général assez sympas avec nous. Il y avait un mec avec un petit accent du sud qui jouait le gentil et qui, je crois que c'est même lui qui nous a dit vous sortirez demain à 9h de toute façon, enfin voilà. Mais ça c'est tout au long de la garde à vue, vous sortirez et au final bah on sort pas quoi. Donc bref, après on est transféré dans le 19e, on sait pas exactement où on va. Enfin moi j'avais demandé dans la camionnette, il nous disait qu'il nous envoyait au service d'intervention transversale. Bon, ça me disait pas grand chose, mais voilà. Donc on y est, et là on arrive dans la cellule, on est trois à ce moment-là, il y a déjà Christophe et moi et Cédric du NPA. Et bon, cellule beaucoup plus petite, très sale pour le coup, et où en effet ça sentait pas bon. Et donc le gardien de cellule, très naturellement, a dit que avant nous il y avait eu des immigrés et que, je vous le cache pas, ils sentent pas la rose. Voilà, merci, hein. C'est super sympa. Donc c'est un peu ce genre de réflexion qu'on a pu voir. En effet, c'est assez cliché, mais c'était... Et puis même pendant nos auditions, alors je sais pas ce que tout le monde a eu, mais moi j'ai eu aussi certains trucs, mais tu sais que c'est pas bien d'avoir les cheveux longs, c'est mieux d'avoir les cheveux courts quand on est un garçon, ou des choses comme ça. En plus, comme c'était après la journée de la femme, je crois qu'on a peut-être un petit peu tous eu à des remarques sur cette journée. Je sais qu'il y en a eu, c'était « Ah, mais de toute façon, c'est terminé la journée de la femme aujourd'hui, maintenant, on n'en parle plus », ou il y a certains avaient des badges... De cette manifestation-là, justement, qui avait été distribuée. Il leur disait « Ah, mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi le sexisme ? Franchement, ça n'existe pas, ça n'existe plus. » Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, bref, pour revenir, on est dans le 19e. Donc là, c'est autre chose.
Vous
c'est
quoi ? Alors, vous le savez maintenant ? Qu'est-ce que vous dites dans le 19e ?
Oui, parce que on savait que c'était les locaux qui s'occupaient des bandes organisées, en général. Donc ça, on était au courant. Mais maintenant, il y a les officiers de l'OPJ qui sont venus nous voir pour nous dire à peu près comment ça allait se passer. Ils nous ont dit qu'on allait être auditionnés, ce qui en fait n'a pas été le cas. Enfin, on n'a pas tous été auditionnés. Je ne sais plus si parmi nous, il y a une personne qui a été auditionnée. Je crois Cédric. Cédric a été auditionné, mais c'est parce qu'il n'avait pas été.
Voilà,
il n'avait pas été dans le 12e.
Dans le 19e, puisque dans le 12e, il n'avait pas eu cet immense privilège, et Eric non plus, donc ils ont été reçus tous les deux uniquement dans le 19.
Mais sinon, nous, on n'a pas été auditionnés, ils vont aussi nous demander nos codes PIN. Mais voilà, comme disait Marine, c'est intéressant de savoir que s'ils le demandent, c'est qu'ils n'ont pas de commission rogatoire, et que donc, techniquement, ils ne devraient pas regarder. Et pareil, ça commence à faire longtemps, on arrive à la fin des 24 heures, et... Alors c'était le même, les officiers ont laissé à un moment fumer ceux qui le voulaient, et il y en a un qui disait oui bon bah de toute façon, qui nous a même dit qu'il y avait un rassemblement de soutien pour nous, qu'il allait avoir un rassemblement de soutien à 18h, que de toute façon ils n'arrivent pas à extraire les données du portable, soi-disant qu'ils ont pas, qu'on garde le silence, donc ils peuvent rien faire, donc on allait être relâchés, qu'on allait, ils nous ont même laissé entendre qu'on allait être relâchés pendant le rassemblement de soutien, ce qui aurait été quand même la classe, franchement, de sortir à ce moment-là, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et on, du coup, on, je dans la cellule des garçons, mais bon, on était ensemble, donc c'était un peu la même chose, mais je crois qu'il y a eu peut-être 2-3 heures où on se dit, bon, bah voilà, on va sortir, quoi, c'est la fin, ça va pas être prolongé. Même si l'avocate nous avait quand même dit qu'il y avait un risque de prolongation quand même fort, vu qu'on gardait le silence, vu qu'on exerçait notre droit au silence. Et au final, bon, bah, ils nous montent tous un par un, la garde à vue est prolongée. Et là, bon, bah, c'est reparti pour 24 heures, déjà que c'était long. Et en plus, on était ferré au 36 quai des Orfèvres. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait peur hein, quand même, hein, quand il dit ça. Bon, voilà. Donc on était un peu remontés, énervés. C'est au bout d'un moment ils veulent jouer donc bah on va jouer aussi hein, on parle plus on signe plus et c'est ce qu'on a fait.
Donc là le 36 quai des Orfèvres c'est section terroriste c'est ça
hein. C'est section antiterroriste de la brigade criminelle de la brigade criminalité exactement donc voilà bon, en effet là par contre c'est des cellules individuelles franchement ça va
nickel
ouais ça allait
immaculé
bon après il y avait enfin ouais, moi, ma cellule a été pas sale, personnellement, mais par contre, elle a été bien graffée. Enfin, pas graffée, du coup, je sais pas, je pense que les gens faisaient ça avec leur fermeture éclair, mais il y avait des trucs marrants. Bon, moi, j'ai été dans une cellule de nazis, apparemment, vu qu'il y avait beaucoup de croix gammées. Il s'est bien amusé. D'autres, c'était autre chose. Enfin, voilà, il y avait de tout, quoi. Et là, ça a été long. Enfin, pour moi, en tout cas, personnellement, ça a été long parce qu'au départ, j'étais tout seul. Après, il y a Mickaël qui est venu et on était deux, mais on a essayé de se parler à un moment et puis ils nous ont dit d'arrêter de parler. Bon, en fin de compte, on a continué à parler quand même, puisque qu'est-ce qu'ils vont faire? De toute façon, on est déjà en prolongation de garde à vue, 36 quai des Orfèvres, on va parler. Hein, et bon, voilà. On a demandé plusieurs fois à être mis ensemble, mais ils ne voulaient pas.
Et, bah, vous parliez comment alors? Vous étiez pas ensemble?
Bah, non, mais en fait, on était dans une salle où il y avait 3 cellules. En enfilade, et en se mettant, en fait, c'est une porte vitrée, il y avait des petits trous en bas de la porte, et en se mettant en bas de la porte avec les petits trous, ça passait très bien le son. Donc on se parlait à peu près comme ça. Voilà.
Ah, d'autres étaient dans des cellules un peu plus isolées, beaucoup plus petites, parce que nous aussi on avait 4 mètres carrés, c'est tout ce qu'on avait avec Eric, donc chacun sa cellule, jusqu'au moment où on a réussi à négocier le fait d'être mis tous les deux, je crois qu'ils en avaient marre en fait. On les a eu à l'usure, puisque pareil, interdiction de parler, mais on a fait de ça. Voilà, on leur a montré qu'on ne céderait pas non plus. Comme disait Paul, effectivement, ce qui a poser des soucis à partir du 19e, c'est qu'on a exercé notre droit au silence. Et ils n'ont pas été fans du tout, donc on a pu avoir des échos une fois arrivé au 36, que ce droit au silence et les interventions de nos différentes orgas politiques et leaders ou représentants ou porte-parole de certaines orgas se sont quand même pas mal démenés, ont pas mal appelé et ont fait leur rôle. Apparemment, ça a quand même pas mal joué contre nous sur ce qu'ils nous ont dit, donc ça les dérangeait particulièrement qu'il y ait des militants du NPA qui appellent. Qu'il y ait des gens de l'AFA qui soient mobilisés, des gens d'AEL, d'autres collectifs qui font de l'antifascisme de façon régulière avec ces rassemblements et ces mouvements devant les commissariats, ça leur a vraiment pas plu, quoi.
Et alors, vous connaissiez un peu vos droits avant d'être arrêté, que vous étiez un peu briefé
Certains plus que l'autre, mais... Voilà. Non, moi, je connaissais, je savais, j'avais à peu près, enfin, j'avais les questions auxquelles on était obligé de répondre. J'avais juste aucun nom d'avocat en tête à demander, mais après, on a pu demander à la même avocate en fin de compte. Mais bon, voilà, enfin, je l'avais jamais vécu, donc c'est une bonne expérience. Hein.
C'est-à-dire qu'en fait, quand on part pour avoir une activité militante telle que était celle que nous on souhaitait. Alors, qui nous est reproché par reproché, le débat n'est pas là, on aura l'occasion de s'expliquer au moment du procès. On ne part pas en se disant qu'il va falloir un avocat, qu'il faut prévenir les familles qu'on ne va pas rentrer pendant plus de 48 heures. Voilà, il ne faut quand même pas oublier que ce qui nous est reproché est simplement actuellement un collage d'affiches qui engage apparemment de grave dégradation avec le suivi que ça a pu avoir. On est relativement surpris de se rendre compte que quand d'autres groupes politiques de notre bord proche de notre bord ou d'autres bords complètement à l'opposé, comme celui qui dirige actuellement. Ils collent, hein. Ils ne sont pas tellement emmerdés quand ils collent. C'est un peu la fête, ils collent au milieu des fonctionnaires de police, parfois avec la bénédiction des commissariats. Et nous, bah, voilà, un petit collage contre un mouvement identitaire dans les rues de Paris, ça coûte en fait très très cher.
On va écouter un morceau de musique.
Non c'è ragione, non si trova il torto. Più mi struggo e più mi sento strutto. Penso al rapporto tra la gallina e il porco che c'è nell'uovo con il prosciutto. Ciascuno ci mette qualcosa. Chi si fa più, chi si fa meno male. Ciascuno ci mette del suo. Ma non per tutti è uguale. Avevo un'auto vecchia e mi piaceva, l'ho venduta per farci tre canzoni, suonate in fretta, risicando i costi, finché arrivano i nostri, certamente i buoni, e spendono belle parole, è come il sole all'alba, un rosso d'uovo puro, ma il tempo no, non è ancora maturo, e intanto sono a piedi. Per arrivare fin lì, se mi vedi, amori, amori, che mi facesti fare cose di impazziri, pigliavo la mia vita e lume cori e ti li vinni a dare, mischino sogno era così solo ti posso dire faccia detta lì a come si mori. Già prima del caffè c'è qualche cosa, una voce, la frattaglia di un giornale che si intromette, che ricorda oziosa, pure oggi si fa la festa al maiale e c'è sempre chi mette parole e tira fuori l'uovo dal posto giusto con un gusto che quasi non credi. Quanto siamo a piedi e rimaniamo così a cantare. Amori, amori, che mi facesti fare così di impazziri, pigliamo la mia vita, lume cori e ti rivini a dare, mischino sognerà così solo ti posso dire la faccia detta lì a come si mori. Mischino sognerà così solo ti posso dire la faccia detta lì a come si mori. Mischino sognerà così solo ti posso dire la faccia detta lì a come si mori. Mischino sognerà così solo ti posso dire la faccia detta lì a come si mori.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes toujours avec les amis d'Orwell et donc aujourd'hui on a comme invité des militants, donc les militants du 8 mars, je ne sais pas si on peut vous appeler comme ça, mais en tout cas des militants qui se sont fait arrêter le 8 mars après une manifestation pour la journée de la femme et qui collait des affiches qui se sont fait donc arrêter pour collage d'affiches. Donc vous étiez une vingtaine, c'est ça, à coller des affiches et finalement vous n'avez pas été tous les 10 arrêtés, certains sont allés d'eux-mêmes ensuite au commissariat. Non, tu peux nous raconter c'est Eric.
Moi, j'étais au moment de l'interpellation, donc moi, je discutais avec le gardien du cimetière, donc je ne me suis pas fait interpeller.
Parce que vous étiez à côté d'un cimetière.
Oui, parce que l'espace Charenton colle à un cimetière. Si tu veux, tu as l'espace Charenton, à côté, tu as un cimetière, et en face, c'est les voies ferrées. Donc moi, je suis retourné au local, donc on a prévenu les gens que j'avais à prévenir, prévenir les avocats et tout, et en allant au commissariat pour demander de mes nouvelles de mes camarades, bah, je suis resté au commissariat.
D'accord. Finalement, tu as été arrêté aussi alors. D'accord. Et donc on était en train de se poser des questions comme ça par rapport à comment ça se passe. Alors, quand on dit on prévient la famille, finalement, on n'a pas un contact téléphonique avec la famille. C'est la police qui appelle, c'est ça?
Voilà. Donc, en fait, ils laissent pour les gens qui en ont besoin la possibilité de réouvrir les téléphones et de communiquer les noms et les numéros des personnes à prévenir. Uniquement les fonctionnaires qui font cette démarche, donc pour avertir que les enfants, dans le cadre de parents ou les conjoints ou autres, sont donc à disposition de la police suite à une vérification, un contrôle. Ça reste très très évasif, ce qui est plutôt pas mal sur certains points. Plus difficile, je pense, pour les parents qui reçoivent ça. Parce qu'après, il va falloir se justifier quand on rentre à la maison, pour certains. Il nous propose également de contacter les employeurs. Ça tombait bien puisque personne n'a souhaité prévenir son employeur. Je n'imagine pas la scène. Bonjour, il travaille chez vous, mais pour le moment, il est en détention. On va le mettre en garde à vue parce qu'il y a des dégradations. Je pense que c'est pas mal. Mais ça, c'est que de l'hypothèse. On n'a pas du tout le bien fondé, ni savoir ce qui se dit réellement. Pendant le petit intermède, là, on était en train d'évoquer un petit souvenir qui nous a fait rire, donc on va vous en faire part. Au moment où on se fait interpeller, donc on se fait mettre main sur le mur, dos aux fonctionnaires de police. Et donc il y a une petite fouille rapide avec réception de ce qu'ils peuvent trouver sur nous, avec parfois de l'alcool, parfois des pinceaux. Voilà, ils sont très contents, une bonne pêche. Et il faut savoir que pour interpeller donc 10 militants, il y a eu 6 véhicules de fonctionnaires de police avec 17 fonctionnaires. Il y avait très peu de gardiens de la paix. C'était déjà des grades un petit peu plus élevés, de façon régulière. Et summum du bonheur, on vient donc nous chercher avec ce qu'on peut appeler un panier à salade, le petit véhicule plutôt sympathique. Et là, on est très heureux de se rendre compte que nos impôts servent à quelque chose, puisque pour venir interpeller 10 militants, ça leur coûte une aile arrière d'un véhicule de transport en commun de chez eux et l'aile arrière d'une voiture, puisque le fier conducteur a arraché un bout de son véhicule et un bout de la voiture de ses collègues. Très pressé, nous sommes, comme on a pu le voir par la suite, de dangereux terroristes, avec les mesures qui ont été mises en place pour ce qui nous est reproché.
Et alors justement, donc vous n'étiez pas tous au même étage quai des Orfèvres. Est-ce que les conditions de détention étaient différentes?
De fait, sûrement. Je pense que pour Christophe et Eric, c'était différent. Et puis, je sais que j'étais le plus jeune de tous, et ils m'ont mis avec Mickaël, qui était aussi assez jeune au départ. Et voilà, enfin, je pense qu'ils ont essayé de taper fort sur ceux qui pensaient qu'ils étaient peut-être un peu plus faibles. Après, je sais pas, j'ai pas tous les détails de chaque audition, mais c'est sûr qu'ils ont tous agi différemment en fonction de la personne qu'ils avaient en face. Après, les conditions de détention, 36 quai des Orfèvres, de toute façon, elles sont pas exécrables. En règle générale, c'est sûr, c'est pas le palace, c'était déjà mieux que dans le 19e, quoi.
Mais je crois que c'était quelque chose qui a été calculé. Je pense que Christophe et moi, on a été isolés du reste du groupe parce qu'on est les militants qui avons déjà plusieurs gardes à vue et tout. Et comme il y avait beaucoup de jeunes et tout qui étaient avec nous en bas, dans ceux qui sont en train, ils ont voulu les garder sous la main pour essayer de faire ce qu'ils appellent leur point de pression. Mais bon, ce qui n'a pas marché avec les camarades qui étaient avec nous, quoi.
Voilà, faut savoir qu'avant que Eric nous rejoigne pour avoir de nos nouvelles, ils avaient déjà identifié un meneur. Donc, identifier un meneur pour la police, c'est relativement simple. On prend le plus vieux, et celui qui tient tête au moment où on lui pose des questions. Donc c'était pratique, j'ai eu cet immense privilège. C'est cool, il m'a rejoint. On a basculé un peu les rôles. Mais voilà, effectivement, arrivé au 36, en fait, nous, on a été séparés complètement. Et au niveau des conditions de détention, on ne va pas s'étendre sur le fait que ça soit agréable ou pas agréable. Être privé de ses libertés et être dans une cage, je pense que tout le monde pourra imaginer comment on peut vivre ça, même avec le recul et avec plus ou moins une appréhension différente. Faut juste savoir que effectivement, nous, la nuit au 36, elle a été cool, quoi. Personne n'est venu nous voir. J'ai pu apprendre par la suite que certains camarades ont été réveillés toutes les deux heures environ. Il y avait des passages, il y avait des discussions et autres. Nous, rien du tout, quoi. On est repassé au fichage complet avec tatouages, photos, empreintes pour la énième fois. Mais c'était plutôt tranquille, quoi. On nous a interdit de communiquer tous les deux. Bon, ça a été un échec. Puisque, comme on lui a dit, on est déjà en cage, donc on peut essayer d'aller plus loin, mais ça va être compliqué. Voilà. Et du coup, en fait, on a vu rapidement des officiers de police judiciaire et des grades relativement hauts du 36, tous les deux, au moins. Et du coup, on a été vraiment pas titillés au même titre que ceux pour qui c'était les premières gardes à vue, les premières interpellations et autres.
D'accord. On peut peut-être aussi parler alors comment ça s'est passé avec vos organisations, dont toutes les organisations vous soutiennent. Enfin, il n'y a pas eu de lâchage à ce niveau-là.
Bah, de fait, vu les rassemblements de soutien qu'il y avait devant le 19e et devant le 36 Quai des Orfèvres, qui était quand même assez massif, sachant que celui du 36 Quai des Orfèvres il était encore plus massif que celui devant le 19e, non. Et puis, c'était plus large aussi que nos simples organisations. Il y avait d'autres organisations qui étaient présentes. Il faut savoir que, alors il me semble que déjà, le rassemblement devant le 19e, les gendarmes mobiles ont coursé ceux qui étaient rassemblés. Enfin, une bonne partie en tout cas. Il y en a une partie qui s'est fait encercler et celle qui a essayé de partir, ils sont fait un petit peu courser par les gendarmes. Donc il y avait ce genre de choses. Mais de fait, hein, le soutien, et même nous, quand on a appris qu'il y avait ce soutien-là, d'ailleurs dans la cellule 19e, en tendant l'oreille, mais fallait tendre l'oreille quand même, mais on entendait un bruit, donc ça, c'est sûr que...
On entendait même libérer nos camarades.
Ouais, on entendait, bon après on peut se douter que c'était, mais voilà. Et donc ça c'était assez intéressant, et puis et même quand ils nous ont signifié la prolongation de garde à vue, on est monté. Enfin, je ne sais pas si on est tous montés dans la même salle, mais moi, la salle à laquelle j'étais, la fenêtre était grande ouverte et il y avait le bruit du rassemblement qui était juste en bas. Donc, bon, au moins, ça aide un petit peu, quoi. Mais donc, je ne sais pas précisément ce que tu voulais dire par ta question, mais en tout cas, les organisations, elles ont répondu présentes, de fait.
Et donc, vous êtes tous défendus par le même avocat ?
Mmh, par Irène Terrel, tous. Vu que, bon, bah. Elle est bonne, elle est spécialisée là-dedans. Donc, il vaut mieux avoir tous la même avocate, c'est plus facile pour préparer une défense.
Donc, il faut se rendre compte aussi, pardon. C'est que ça dépendait des forces de police et comme vient de le dire Paul, on finit quand même avec les gendarmes pour essayer de bloquer les accès aux militants qui viennent nous soutenir. Comme quoi, chez eux, ça travaille quand même super de façon cohérente au niveau de la répression qu'ils peuvent mener contre tout ce qui est militant d'extrême gauche et militant antifasciste. Puisque faire défendre un commissariat par des gendarmes mobiles et faire repousser en plein milieu des rues de Paris un rassemblement pour appeler à la libération de camarades, c'est juste la continuité de ces 60 et quelques heures de privation de liberté nous concernant.
Et juste, je me posais une question par rapport au dépôt. Donc, Marine nous expliquait qu'elle était chez les nonnes. Et vous, vous étiez où alors pendant cette période de dépôt?
Je sais pas, on était tous dans des cellules individuelles de toute façon, il me semble. Je pense que c'était un petit peu différent pour ma part. J'ai sonné une fois quand même, parce que la lumière était allumée. Je me suis dit avec la lumière, je vais pas réussir à dormir. Donc j'ai sonné en me disant, si ça se trouve, ils vont être sympas, ils vont venir. Bon, ils sont pas venus. J'ai sonné une deuxième fois, sonné une troisième fois. Je voyais qu'ils voyaient pas. Je me suis dit, ça fait un bruit quand même. Donc j'ai sonné beaucoup de fois pour les faire chier. Et puis au bout d'un moment, j'ai quand même essayé de m'endormir. J'ai pas trop réussi, mais voilà.
Donc pour vous, ça changeait pas grand-chose. Alors la période de dépôt, c'était la même que la période de
garde à vue. Ouais, le dépôt, c'est pas le même délire que le 36 Quai des Orfèvres. Hein. Le dépôt...
C'est où ça, le dépôt ?
Là, c'est au sous-sol.
Le dépôt, c'est le début de la prison. C'est la différence avec un commissariat.
C'est format prison, de toute façon, hein, les cellules. Et puis, il faut voir les cellules aussi. Hein, bon, on a des toilettes dedans et de l'eau. Enfin, une pissotière, hein, c'est pas des toilettes, faut pas rêver non plus. Bien sûr, pas de papier hygiénique. L'eau, pour j'ai trouvé que pour prendre de l'eau, c'était quand même assez galère, le truc.
Si tu veux, le système du dépôt est basé sur le même système que les systèmes de QHS.
C'est-à-dire ?
Donc, c'est exactement les mêmes cellules que tu as dans une cellule de QHS.
C'est quoi ?
Le quartier de haute sécurité qu'il y a dans les prisons. Donc là où sont isolés, c'est exactement les mêmes cellules que tu as en QHS. Ou alors, ce qu'on appelle en contention, en répression, quand tu vas au mitard, c'est exactement les mêmes cellules.
D'accord, donc c'est pas mieux que la garde à vue finalement, c'est plutôt pire quoi. D'accord.
Et c'est même pire que la prison.
Et les fonctionnaires qui s'occupent de nous, c'est pas non plus les mêmes quoi. Là,
ouais. Alors là, je pense que le bloc identitaire, il a des militants chez eux.
Ouais. Parce que enfin.
D'ailleurs, ça commence à se confirmer puisque certaines informations qui devraient tourner d'ici peu nous démontrent que certains anciens fonctionnaires de police sont affiliés maintenant à certains groupes du bloc identitaire dans la région de l'Est de la France. Voilà, je m'étendrai pas plus sur le sujet pour le moment, ça va commencer à sortir. Donc j'invite les gens à se renseigner régulièrement. Il y a des sites plutôt pas trop mal faits là-dessus et qui donnent pas mal d'infos sympas. Voilà, mais non, le dépôt des cellules dégueulasses, parce que je crois que c'est le terme, des couvertures. Moi, pour ma part, j'ai eu un immense privilège. C'est qu'elle était pleine d'urine, c'était plutôt convivial. On vient taper de temps à autre à la porte, histoire de voir si on dort. Donc, on dort, on se rendort, c'est pas très grave. Le but étant de ne pas leur céder et de ne pas leur demander quoi que ce soit. Enfin,
Puis je crois qu'il y a un vrai retour au dépôt avec les gardiens de la paix. Il y a un vrai retour à ce qu'on appelle la vieille France, à la police de 1936, quoi. C'est qu'à un moment, quand tu es militant antifasciste, tu es un mauvais Français. Quand tu arrives, tu es un militant franciste, tu es un mauvais Français. Les seuls moments où à un moment on a pu les calmer et tout, je te rappelle quand même que la rave du Veldiv, c'était fait par les Français. Mais ça les calme. On va te dire que on va te dire que manger halal, on va tous manger halal, mais c'est les mêmes qui vont violer ta fille de 5 ans, qui vont.
Ils ont beaucoup d'humour là-dessus.
Il y a des discours qui sont quand même assez hardcore à entendre, quoi. C'est à mon avis, oui. On a fait. Je suis désolé, je fais un petit cas comme ça avec l'Autriche. On n'a pas dénazifié l'Autriche, mais je pense qu'on a oublié de dénazifier la police française aussi. Parce que là, au niveau des gardiens de la paix, ça reste... je dirais pas au niveau des inspecteurs, parce que c'est un peu plus soft, ou s'ils pensent, ils ne montrent pas vraiment. Tandis que là, c'est clair.
Ça se lâche pas mal. On était quelques-uns à avoir des enfants, en fait. Si je ne me plante pas, on est deux. Quand on a redonné notre fouille au dépôt, on a eu une petite rengaine plutôt sympathique concernant le fait qu'on avait des filles et que... défendre quand même les gens, l'islam, tout ça, c'est quand même ces gens-là qui n'hésiteront pas à violer nos enfants et à violer nos femmes si on continue à les défendre, quoi. Donc c'est plutôt sympa, le petit gars qui tenait ce genre de discours, c'est un petit gardien de la paix, et qui est fier de lui, et qui sont plutôt à l'aise dans ses pompes au moment où il nous dit ça. Donc c'est de la provo de façon relativement régulière, alors ciblée, je pense, parce qu'ils savent aussi à qui ils ont affaire et sur qui ils peuvent tenter des choses et d'autres moins, comme on disait, ça a été la même chose sur les interrogatoires et les différentes auditions qu'il y a pu y avoir. Mais c'est pas mal, ils s'entraînent bien. Le truc, c'est que pour les gens qui avaient déjà fait des gardes à vue et des interpellations, c'est un peu différent, mais c'est vrai que pour tous ceux dont c'était les premières et surtout une première comme ça, moi franchement, je trouve que ça s'est plutôt bien passé, personne n'a cédé et on a tenu la ligne qui avait été établie sur le fait de rien dire, ce qu'on continue à faire quand on est amené à voir des interviews un peu plus spécifiques et ce qui devrait être dit sera dit au moment du procès, en accord avec notre avocat. On a pris une ligne qui était de dire qu'on n'avait rien à stipuler au moment des auditions et des remarques et des différentes interrogatoires. C'est pour nous le point le plus important. On est simplement des militants antifascistes. On nous accuse de diverses choses. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que malheureusement, les militants du bloc identitaire, depuis quelques jours, font quand même sensation, se font des exceptions diverses et variées et se font bien plaisir. C'est pas les mêmes conditions de détention. Quand il y a détention ou même d'interpellation, il y a quelques mois, ils ont effectivement collé des affiches, attaqué un théâtre, coupé pas mal d'organes de sécurité d'un théâtre. Ça leur a rien coûté du tout.
Théâtre du Rond-Point.
Voilà.
11 heures de garde à vue ressorties.
Donc c'est voilà,
rappel
c'est
à la loi.
Un petit rappel à la loi parce que bon, eux, on comprend, ils sont blancs, tout va bien, et c'est eux qui défendent notre pays. Alors que nous, on reste que des gauchistes et des antifascistes, donc faut essayer de faire des exemples. Moi, je suis fier de ce que je suis. Je pense que les camarades qui étaient avec moi prônent à peu près la même chose.
Pas de problème.
Voilà. Maintenant, c'est pas pour autant que on cédera sur ce qu'on veut défendre. Maintenant, il faut bien que les gens comprennent que cette interpellation, elle nous touche nous, donc on en parle. Mais il n'est pas dit de quelqu'un qui aura une envie de coller un autocollant contre tous ces mouvements ou autre, de façon totalement individuelle et sans faire partie d'une organisation, ne subira pas les mêmes choses. Voilà, moi je veux vraiment insister sur cet écart entre l'acte qu'on nous reproche et la sanction, quoi, qui pour le moment est quand même déjà relativement lourde.
Et alors autrement, donc vous rappelez la date du procès, hein ?
Le 7 mai.
Le 7 mai.
Donc il y a des rendez-vous là prochainement oui. De soutien ?
Alors il y a... Le 21 avril, il y a un concert de soutien au 33 rue des Vignoles,
oui, c'est ça.
Dans les locaux de la Confédération nationale du travail. Et le 30 avril, il y a une rôtisserie, dont le lieu m'échappe pour le moment. Mais,
C'est à la rôtisserie, justement. Ah, c'est voilà. Une bouffe de soutien à la rôtisserie. Et d'ailleurs, il y aura sûrement besoin d'aide pour préparer la nourriture. Donc voilà, la rôtisserie qui est bien évidemment connue pour être vraiment la cantine de soutien où en fait on vient aider à préparer la bouffe et puis après c'est généralement c'est à prix libre et voilà.
C'est
quoi.
Rue Sainte-Marthe dans le 10e arrondissement.
Exactement, et ce sera s'agissant donc de la rôtisserie, c'est le 30 avril, c'est ça?
Et autrement, donc, ce que vous expliquez, il y aura aussi d'autres militants de la CNT qui, enfin, un soutien aussi à d'autres militants.
Le concert de soutien, le concert de soutien, en fait, on est couplé à trois autres militants de la CNT qui ont eux aussi été en garde à vue très peu de temps après nous, en fin de compte, quelques jours. Leur garde à vue a aussi été prolongée. Je me souviens pas exactement le nombre d'heures qu'ils ont passé. Ils sont allés au dépôt aussi, il me semble. Donc eux, c'était pour une occupation d'un pôle emploi, pour défendre un de leurs syndiqués. Et il y a eu une altercation avec une personne dans le pôle emploi. On sait pas, enfin moi je sais pas exactement qui c'est. Ça restera à définir. À mon avis, ça peut se trouver. Et en gros, il y a eu cette altercation. La personne a agressé physiquement une militante de la CNT.
Une salariée de Pôle emploi, en fait, c'est ça ?
Non, une militante de la CNT.
D'accord,
Il
y avait une action Pôle emploi de la CNT.
Une action, voilà, d'occupation d'un Pôle emploi de la CNT. Et il y a une personne dans ce Pôle emploi. Alors, je ne sais pas si elle travaillait aussi, si elle travaillait au Pôle emploi ou si c'est juste une personne qui venait, peut-être un chômeur, qui a agressé physiquement une militante de la CNT. Donc, les camarades de la CNT ont répondu. Forcément. Et il y a eu un dépôt de plainte des deux côtés, de celui qui a agressé physiquement la militante et de la CNT. Et le seul dépôt de plainte, en fin de compte, qui a été vraiment retenu, c'est celui de la personne qui a agressé en premier physiquement. Et bien sûr, encore une fois, c'est les militants qu'on met en garde à vue et qu'on garde.
Donc du coup, en fait, il y a quelque chose qui vous paraît nouveau, en fait, dans vos affaires, là, dont on parle aujourd'hui, c'est la durée de la garde à vue, c'est ça ?
La disproportion entre les faits et la durée, de toute façon, 72 heures de privation de liberté, voilà. Mais c'est surtout la disproportion entre les faits et justement cette durée-là. Un collage d'affiches, un bombage, c'est quoi ? C'est quoi pour passer dans les locaux de la section antiterroriste ? Dans ce cas-là, quand des gens posent des bombes, ils vont où ?
Au DCRI. Le Valois-Perret.
Ouais, bon, ça, c'est vraiment, là, c'est vraiment un autre délire. Mais...
une forme de répression qui a changé, c'est... Alors, je vais refaire une réflexion encore par rapport à Thenon. Quand on voit qu'il y a des catholiques intégristes, qui ont le droit de prier à genoux en pleine rue, alors que normalement, si je me rappelle bien, il y a 2-3 lois qui les ont empêchés. Et la question qu'on se posait, c'est à Thenon, si on met sur la même manif, là on a des catholiques intégristes, mais si on met des musulmans intégristes contre l'avortement en train de prier, je pense qu'eux, ils vont tenir 2,5 secondes, quoi. Il y a une répartition, il y a un changement. On favorise en ce moment en France l'extrême droite, quoi qu'il se passe. Et c'est une réalité. Quand on voit ce qui se passe avec le bloc identitaire, qu'on se voit avec tout ce qui se passe partout, les trucs contre les théâtres, les actions qu'ils ont pu faire contre les quicks parce qu'ils étaient soi-disant halal, c'est il y a une vraie montée en puissance. Puis il y a un moment, voilà, je pense que il y a un truc qui a changé. C'est le truc qui a changé, c'est qu'avant on disait qu'on n'aimait pas les Arabes, mais maintenant ça fait mauvais genre, donc on dit juste qu'on n'aime pas les musulmans.
Bon, bah en tout cas, il nous reste plus beaucoup de temps. Bon, bah il y a donc aussi une souscription, c'est ça, pour vous aider à payer l'avocat.
Alors actuellement, la caisse de solidarité est pleine a priori de 818 euros. Oui. Et donc cette caisse de solidarité, elle est gérée, si je ne m'abuse, par la librairie fédérale, donc Publico en l'occurrence. Donc pour nous soutenir, il suffit d'envoyer un chèque donc à Publico, 145 rue Amelot, à métro Beurre-Camphi du Calvaire ou République. Ça dépend si on veut marcher beaucoup ou pas. Donc voilà.
Bon, aussi un petit point juste avant qu'on termine, c'est que voilà, on est militants antifascistes, ça ne s'arrêtera pas là, nos actions et nos envies, et on informe simplement, même si ça commence à savoir un petit peu, qu'au mois d'avril, cette chère Marine Le Pen va tenir en plein milieu de Paris, dans le 19e arrondissement, dans une salle très connue, très fréquentée par à peu près toute classe de population, puisque c'est les termes adéquats en ce moment, son meeting de fin de campagne qui prend des allures d'un meeting national. Actuellement, y a des souhaits de se mobiliser, d'essayer de faire que ce meeting ne se tienne pas. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas forcément le but, mais on a quelques soucis à mobiliser tous les partis institutionnels qui se disent vouloir faire de l'antifascisme régulièrement, même quand ils portent une belle cravate ou quand ils sont dans les médias interrogés ou qu'ils se retrouvent face à elles. Ces gens-là ne sont pas très motivés à essayer de se bouger pour faire que ce meeting ne se déroule pas comme elles le souhaitent. On tenait à vous donner cette date. Vous savez maintenant qu'il y a différentes organisations. Tout le monde peut prendre contact avec ces différentes organisations et le but étant de pouvoir fédérer quelque chose et de recréer enfin dans ce pays un vrai groupe, une vraie mouvance antifasciste, qu'on arrête de dédiaboliser à cette personne qui ne reproduit que le schéma de papa.
Merci et puis on se retrouve dans 15 jours et n'hésitez pas à réécouter nos émissions sur sourier.info.
Song I hate. It's the song I hate. I'm not.